Bon, évidemment, il y a des émissions qui ont des experts, des spécialistes, des consultants. Et nous, on a un oracle. On a un oracle qui arrive enfin à la demande générale de nombreux auditeurs. C'est le professeur Lordon. Le voilà, il est devant nous. Il est dans votre poste.
Tout est bon dans le professeur Lordon. C'est comme dans le cochon.
Non, mais je suis sérieux. On a beaucoup d'auditeurs qui cherchent à savoir comment placer leur argent, comment s'enrichir sans peine, et qui sont très attentifs à vos critiques, cher Frédéric Lordon. Alors, par où on va commencer ? Parce que je rappelle le titre de votre livre qui s'appelle « La crise de trop, reconstruction d'un monde failli » qui est sorti au mois de mai.
Tout de même.
Ah, ah. Et il s'est passé beaucoup de choses depuis. Alors, la première question. Où en sommes-nous ?
Ah ça alors, c'est une question quasiment existentielle.
Voilà. Où en sommes-nous par rapport à la crise, bien évidemment, cette crise financière ?
Ah ben moi je fais comme tout le monde, hein. Je lis mon journal, j'écoute ma radio, etc. Et tout le monde me convainc qu'elle est terminée, c'est derrière nous, tout est reparti, hardi petit, donc il n'y a plus de problème, la question est vraiment sans objet. Alors quand même il reste un vieux fond de doute là, qui traîne au fond d'une statistique ou deux. La crise aiguë, celle de l'automne 2008, évidemment, elle est terminée. Bon.
Elle est terminée sur quel plan ? Sur le plan financier ?
Alors, sur le plan de la menace de l'effondrement apocalyptique du système financier. Alors, du point de vue de ses répercussions dans l'économie réelle, on a enregistré quelques trimestres de récession et tout le monde nous dit qu'on est en train d'en sortir. Bon. Et alors, évidemment, à la première embellie, ça pousse des hurrahs et ça crie des vivas dans tous les sens. Moi, j'aurais tendance à retenir un peu mes larmes de joie, hein, et à modérer un tout petit peu mon enthousiasme pour une raison extrêmement simple. C'est-à-dire cette crise, alors on va dire crise financière, hein, en première approximation, mais avec cette réserve qu'il faudrait avoir à l'esprit en permanence que ce n'est pas une crise financière ou financière, ce n'est pas une crise exclusivement financière. Cette crise financière est la révélation, ou c'est l'épiphénomène ou le symptôme d'une crise qui est en fait beaucoup plus profonde, hein, qui est une crise de la configuration présente du capitalisme. Cette crise a pour origine un excès d'endettement généralisé. C'est-à-dire la chose assez drôle, hein, quand on y pense, c'est qu'on nous a bassinés pendant des années avec la dette publique qui, ma pauvre dame, allait être supportée par nos enfants. C'était vraiment terrible. Hein. Et pendant qu'on regardait du côté de la dette publique qui, à tout prendre, était alors des plus modérés, on n'observait pas qu'était en train de se former une crise de dette privée absolument monumentale. C'est la plus grosse crise de dette privée que le capitalisme ait jamais eue sur les bras. Bon. Et le malheur est que nous sommes loin d'en être sortis, pour plein de raisons. C'est-à-dire que ça a commencé avec la crise des subprimes, donc la dette immobilière des ménages les moins solvables, les plus fragiles, etc. Or, il y a toute une série d'autres dettes qui vont arriver par convoi et se fracasser dans le bilan des banques, mais à partir de 2010, 2011, etc. Alors, il y a une autre classe de dettes immobilières que les subprimes, qui s'appelle les Alt-A Mortgage, qui sont en gros une classe de dettes intermédiaire entre les dettes vraiment pourries des subprimes et les dettes, honorables, qu'on appelle prime, hein, par définition. Et qui fonctionnent, les Alt-A Mortgage fonctionnent exactement sur le même schéma que les subprimes, c'est-à-dire sur le mode d'une première période avec un taux d'appel ultra copain, des tout petits pourcents à payer avec des mensualités ridicules que tout le monde croit pouvoir se permettre, et au bout d'un certain temps, ce qu'on appelle le reset, c'est-à-dire on sort de la période des taux d'appel et on revient non seulement au taux normal, mais avec l'obligation de rembourser ce qui n'avait pas été payé pendant la première période. Alors, les subprimes, ça fonctionnait sur le modèle 2 plus 28 pour un crédit immobilier de 30 ans. 2 ans copains, 28 ans à la dure. Les Alt-A Mortgage, c'est plutôt sur le mode 4 plus 26 ou 5 plus 25. Et alors, quand on regarde la démographie des crédits Alt-A Mortgage, on s'aperçoit que les gros bataillons qui vont prendre le reset dans les gencives vont débouler vers 2010, 2011, 2012. Ce qui signifie que c'est à ce moment-là que vont se produire, comme toujours au moment du reset, les défaillances massives des ménages qui, au début, payaient parce que c'était tout léger et tout agréable et qui ne pourront plus faire face à des mensualités qui vont doubler de volume d'un coup d'un seul. Bon, ça, c'est le premier qu'on voit. Il y en a pour 1000 milliards de dollars, hein, gentiment, de halt et mortgage. Alors, ça ne veut pas dire que les 1000 milliards de dollars vont se fracasser, mais ça veut dire qu'il faut s'attendre à enregistrer un taux de défaut assez rondelet et qui vont occasionner des pertes supplémentaires assez rondelettes également dans les bilans bancaires. Première chose. Deuxième chose, on reste dans l'immobilier, mais cette fois-ci, on change un peu de crèmerie. Non plus l'immobilier des ménages, mais l'immobilier commercial. Alors là aussi, il y a un séisme qui s'annonce et qui va être absolument gratiné. Donc, il y a des dettes d'ordre de grandeur équivalentes qui ont été contractées sur l'immobilier commercial et que les entreprises ne vont pas pouvoir rembourser. Et alors là, pour le coup, la récession ne les y aide pas. Et d'une manière générale, c'est ça le vrai problème. C'est que la récession fonctionne comme une espèce d'énorme machine à produire endogènement de la mauvaise dette. C'est-à-dire, vous aviez des ménages qui étaient à peu près solvables, les narines au ras de l'eau, mais encore un petit peu au-dessus, et qui arrivaient à payer. Mais voilà, y en a un des deux qui perd son emploi et c'est fini. Le ménage plonge. Et d'emprunteur à peu près solvable qu'il était, il tombe dans la catégorie des emprunteurs qui font défaut. Mauvaise dette en plus. Et puis, il n'y a pas que les mauvaises dettes des ménages, il y a les mauvaises dettes des entreprises. Alors, pas seulement celles qui sont concernées par l'immobilier commercial, mais toutes les autres. Je veux dire, il y a plein de business qui étaient des affaires honnêtes, hein, convenablement solvables, qui payaient leurs dettes à peu près correctement et qui se prennent dans les dents moins 20, moins 30, moins 40% de chiffre d'affaires. Ah bah oui, évidemment, hein, ça change les données du problème. Alors, toutes ces entreprises, elles aussi, d'à peu près solvables qu'elles étaient, risquent de devenir insolvables ou illiquides. Et encore un paquet de mauvaises dettes supplémentaires à encaisser pour les banques. Donc moi, je ne sors pas de cette idée simple et assez rudimentaire que le système bancaire n'en a pas fini avec les dettes pourries et que comme c'est ça la raison première de la crise, aussi bien de la crise financière que de la crise économique, on n'en est pas débarrassé. Et donc moi, mon anticipation, ça serait que, au lieu d'une reprise triomphale comme on nous l'annonce, certes, nous allons sortir de la récession, c'est-à-dire des taux de croissance négatifs, mais pour nous traîner très durablement dans un régime de croissance tout à fait mollassonne et avec par conséquent un chômage haut et voué à rester à des niveaux élevés pour très longtemps. Je veux dire, c'est-à-dire une phase de croissance cacateuse et d'emploi très dégradé pour vraiment plusieurs années.
On annonce 25 millions de chômeurs dans les pays de l'OCDE. C'est l'OCDE même qui fait cette prévision pour 2010.
Eh ben, 25 millions. C'est pas moi qui le dis, c'est des prévisionnistes assermentés. Donc voilà, ça vaut peut-être le coup de les écouter. La dernière chose, c'est qu'il faut bien voir l'alternative toute pourrie à laquelle on est confronté tout de même. Hein. Parce que dans cette affaire, quand je disais que derrière la crise financière, il y a une grosse crise économique, mais je veux dire une crise structurelle, une crise de la configuration du capitalisme, c'est une crise de sous-consommation chronique. Je veux dire, la stagnation salariale est l'effet permanent de cette configuration du capitalisme. Alors évidemment, la sous-consommation, c'est un peu embêtant. Alors au début, le capital pousse des cris de joie. Hein, ça, c'est facile à comprendre. Parce que des coûts salariaux qui baissent, ça veut dire des profits en hausse. Mais au bout d'un moment, même le capital s'aperçoit qu'il lui faut écouler sa marchandise.
C'est ça.
Et que pour l'écouler, il faut bien qu'en face, il y ait une demande solvable.
Ford avait compris ça.
Même lui, il avait compris oui. Ça. Eh bien, ses successeurs, 70 ans après, l'ont oublié. Et alors, évidemment, le problème, c'est que quand on verse des salaires au lance-pierre, la consommation s'en trouve légèrement déprimée par derrière. Et la consommation risque de rester durablement déprimée, sauf à reprendre les manœuvres acrobatiques de la finance qui avait réussi à instituer le crédit à la consommation comme espèce de béquille permanente de la demande finale adressée aux entreprises, mais moyennant des contorsions alors absolument invraisemblables qui passaient par toutes ces innovations qu'on appelait la titrisation, la finance structurée, c'est-à-dire cela même qui s'est fracassé à partir du printemps 2007. L'alternative est donc soit same player shoot again, hein, allez, on remet 50 centimes dans le flipper et c'est reparti, la titrisation, le soutien artificiel de la consommation droguée au crédit avec la prochaine crise de surendettement généralisé pour dans 5-10 ans, ou bien les folies du crédit se calment, mais alors la consommation reste durablement déprimée et la croissance avec.
Frédéric Lordon, c'était vu il y a à peu près un an, au moment où ce crack se produisait, Et là, on se disait, là, vraiment, alors là, tout le monde va comprendre. Ouais. C'est tellement gros, c'est tellement énorme. La chute est... Alors, nous qui essayons toujours modestement, avec du génie aussi, mais avec quand même beaucoup de modestie, de critiquer les abus du néolibéralisme, là, tout d'un coup, on devenait inutile. C'était énorme. Or, les réactions ont été quand même très modeste. On a eu des mouvements sociaux, un peu, en France, des grandes manifestations, des jours de grève, etc. Comment expliquer si peu de réactions? Le plan de sauvetage est évalué à 900 milliards de dollars, c'est ça?
Alors, la première mouture était de 700 milliards de dollars et elle a été passablement allongée par l'administration Obama. Mais les chiffres sont très incertains. Ce programme étant calaminé, on ne sait pas où il en est. Il a à peine démarré, mais il était pour un volume qui pouvait atteindre entre 1500 et 2000 milliards de dollars. Donc, excusez voilà. Du peu. Hein.
Bon, donc, et tout ça sur des fonds publics. Et aucune contrepartie. C'est-à-dire qu'en France ou comme aux États-Unis, il n'y a eu aucune contrepartie contre ce plan de sauvetage. Enfin, c'est tellement gros, c'est tellement énorme qu'on aurait pu attendre de la part de l'opinion un étonnement, une indignation, que sais-je. Rien. Rien ou pas grand-chose.
Alors là, ce n'est pas une question pour économiste. Hein, je veux dire, moi, je suis comme vous, j'ai été extrêmement étonné par tout ça. C'est-à-dire que... J'ai le souvenir du début de l'année 2009 où quand même la colère glougloutait dans la marmite. C'était là vraiment, c'était terrible. Et on se retrouve quelques mois plus tard, je veux dire à partir du mois d'avril ou du mois de mai. Je ne comprends pas. Hein. Les gens qui étaient remontés comme des coucous suisses font un coup de déprime. Les élections européennes sont minables à tout point de vue, de la participation, du débat, et tout est oublié. Et on a l'impression que tout ça est en train de passer en contrebande.
Est-ce que ça veut dire qu'on est on est sur un retour à la normale. On se souvient du discours de Nicolas Sarkozy à Toulon contre le capitalisme. Tous vos confrères économistes de la presse, j'ai dit confrères. Hein.
Oui, c'est bien.
Qui ont retourné leur veste à toute vitesse en se mettant à lire Marx et Keynes, etc., en disant « c'est vrai, c'est insupportable, c'est un scandale, ce capitalisme néolibéral, etc. » Où sont-ils? Ils sont revenus dormir la veste dans l'autre sens.
Alors, mais comme toujours, hein, ils épousent le sens du vent et ils essayent de suivre avec aussi peu de retard que possible les réorientations des courants dominants. Donc, lorsque la finance part en décalage, capilotade à l'automne 2008, évidemment, là, il ne s'agit plus d'être néolibéral. Là, franchement, c'est très mal porté. Hein. C'est tout à fait ringard et plus du tout de saison. Donc, en effet, on fait vite fait du rattrapage. On relit son Marx, on dépoussière son Keynes, etc. Et chacun y va de sa proposition. Il faut nationaliser. C'est parfait. Ça nous change énormément. Hein. On a l'impression que là, vraiment, on s'est transporté d'un monde à un autre, parallèle, sans doute. On ne s'y reconnaît plus trop, mais... mine de rien, c'est pas désagréable. Et puis voilà, dès lors que la situation s'améliore, les incitations à changer radicalement, évidemment, disparaissent. J'ai le souvenir d'avoir éprouvé ce sentiment dès la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2008. Pour la raison suivante, c'est que du 15 septembre au 15 octobre 2008, très honnêtement, on est passé près du cataclysme absolu. Je veux dire, il faut bien voir ce que c'est, hein, le risque systémique. C'est l'événement maximal dans une économie. C'est-à-dire, il y a ça et l'hyperinflation. C'est les deux catastrophes ultimes dans une économie de marché. C'est un truc qui a un pouvoir de destruction sociale inégalé en temps de paix. Il n'y a pas pire. Je vous avoue que pour la première fois de mon existence, et je ne m'attendais pas à vivre une chose pareille, j'ai eu pendant ce mois fatidique quelque chose qui était de l'ordre d'une trouille d'économistes. Mais vraiment, je veux dire la pétoche, quoi. Mmh. Et pour des raisons proprement analytiques et économiques. Et à partir du moment où les gouvernements montent au créneau, et alors là, pour le coup, ils sont montés au créneau, ils avaient conscience tout de même de l'ampleur du désastre qui s'annonçait. Et au moins, y a-t-il eu un petit peu d'effet d'apprentissage entre 1929 et aujourd'hui, c'est-à-dire à l'époque, hein, dans les années 30. Il y a une espèce de tropisme de pire. Tout ce qui pouvait être fait de pire a été fait jusqu'à ce que Roosevelt arrive, en gros. Bon, entre-temps, les gouvernements ont appris que le risque systémique, c'est vraiment la catastrophe absolue, et ils étaient prêts à mettre sur la table tout ce qu'il fallait pour l'éviter. Mais avec pour contrepartie qu'à partir du moment où on recule, fût-ce de deux pas seulement du bord du gouffre, alors, immense soupir de soulagement. Et les incitations à l'action radicale s'en trouvent évaporées quasiment et renaît immédiatement l'illusion qu'on va pouvoir s'en tirer à moindre frais. Et il ne manque pas de bons apôtres pour nourrir cette illusion, parce qu'il faut bien comprendre que les intérêts qui sont en jeu dans cette affaire, c'est-à-dire ceux de la finance privée, sont d'une puissance absolument colossale. Je veux dire, il y a une enclave qui a été aménagée par la finance privée au sein même de la société, qui est une enclave de surprofitabilité absolument exorbitante. Il faut donner quelques chiffres tout de même, quand même, juste pour avoir, pour que les gens aient des repères et puissent faire des comparaisons. Le taux de rémunération normal du capital dans une économie. Mais Dixit, la théorie économique la plus standard, je veux dire la moins folle dingue, c'est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, qu'est-ce que c'est? C'est quelques pourcents. Avant la crise, les taux d'intérêt, c'était 3-4%. Vous rajoutez une petite prime de risque, parce que quand même, on rajoute de 3% supplémentaires. Tout ça nous fait dans les 7-8% à tout casser. C'est ça la rémunération normale du capital. Bon. Les grandes entreprises industrielles du CAC 40, et je parle des entreprises industrielles seulement, je réserve la finance pour la bonne bouche, sortent des taux de rendement de leurs capitaux propres, qu'on appelle le ROE en termes techniques, comme Return on Equity, des taux de rendement des capitaux propres qui sont communément supérieurs à 15% et parfois même au-delà de 20%. Mais ceci n'est rien en comparaison de ce qui se mijote dans la tambouille de la finance. Les départements dits d'investment banking, de banque d'investissement, où se concentrent toutes les activités de marché, crachent communément des taux de rendement des capitaux propres qui sont de l'ordre de 40% et parfois même bien davantage. Donc vous voyez l'écart abyssal entre la rémunération normale du capital, taux d'intérêt plus prime de risque, 7-8%, et ce que crache la finance de marché, 40%. Mais c'est un petit paradis qu'ils se battront jusqu'à la dernière goutte de sang pour préserver. Et c'est là qu'il faut, il faut bien voir ça. Je veux dire, il y a une économie politique de la financiarisation dont un des aspects tient à l'interpénétration, pour ne pas dire la confusion organique, des élites politiques et des élites financières. Alors en France, c'est particulièrement gratiné. Le conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, c'est Michel Pébrot, président non exécutif de BNP Paribas, qui n'a pas vraiment l'intention de céder quoi que ce soit sur les agréments de la finance de marché. Je veux dire, que peut-il sortir d'un cabinet élyséen qui est sous emprise d'un banquier en chef? Je pose la question. Il y a le cas...
Sous
l'emprise, absolument. Il y a le cas encore plus remarquable, alors celui-là, il est croustillant, de François Pérol. Alors, écoutez, vous allez voir le bestiau, la trajectoire est impressionnante. François Pérol est un énarque, inspecteur des finances, tout qui va bien, ses papiers sont en règle. Il fait directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy au ministère de l'économie et des finances en 2004-2005. Et il quitte le cabinet du ministère des finances pour devenir associé gérant chez Rothschild et compagnie, où il supervise la fabrication de cet ensemble qui fait notre gloire nationale, qui s'appelle Natixis, qui est à peu près champion de France dans la compétition bouillon sur les subprimes, toutes catégories. Puis, il met sur les rails le rapprochement de la Caisse d'épargne et de la Banque populaire, qui va s'avérer également un grand succès populaire. Il quitte Rothschild et compagnie pour prendre le poste de secrétaire général adjoint de l'Élysée, où il va piloter littéralement, en compagnie de Michel Pébrot, qui lui est externe au cabinet, il va piloter les plans de secours au système bancaire français. Et il va quitter l'Élysée, c'était cette année même, pour prendre la tête de l'ensemble Caisse d'épargne Banque populaire, dont il a été l'ingénieur privé chez Rothschild, puis l'ingénieur public au secrétariat général adjoint de l'Élysée. Donc là, l'interpénétration est totale. Alors, c'était un nanar du commentaire éditorial et de la chronique de haut vol dans les médias de dénoncer cet état de fait comme une épouvantable idiosyncrasie française. C'est, oh là là, c'est les relations incestueuses de l'État et des entreprises. C'est l'État qui met son nez partout, toujours. C'est vraiment, si on regardait du côté des États-Unis, là où le capitalisme est pur, libre et privé. Oui, mais M. Mermet, c'est qu'on s'est aperçu qu'aux États-Unis, c'était pire encore. C'est-à-dire que dans le temple du capitalisme privé, pur et tout ce que vous voulez, les patrons de Goldman Sachs, la plus grande banque d'investissement américaine, se succèdent à la tête du secrétariat au trésor, l'équivalent fonctionnel du ministère de l'économie et des finances, et pour y faire la politique de leurs intérêts passés et futurs. Alors là aussi, il faudrait citer des noms. Ça passe toujours, ça s'incarne dans des personnes, hein, ça, dont la trajectoire est remarquable, et parce que remarquable peut être désingularisé pour en tirer des enseignements généraux. Alors par exemple, Bob Rubin. Bob Rubin a été président de Goldman Sachs dans les années 80. Et il rentre dans l'administration de Clinton dans les années 90, où il va être l'un des suppôts les plus acharnés de la déréglementation des marchés de dérivés, et notamment des dérivés de crédit. Ceux-là même qui se sont écroulés à partir de 2007. Il quitte l'administration Clinton, où il a rempli son office de dérégulateur en chef, pour devenir vice-président de Citigroup, qui est l'un des mastodontes bancaires états-uniens, et qui lui aussi alors va devenir un champion hors norme des pertes sur les subprimes, et alors un abonné au plan de recapitalisation publique. Et d'ailleurs, c'est M. Rubin qui négocie avec Henry Paulson, l'un de ses successeurs, à la fois successeur en tant que président de Goldman Sachs et successeur en tant que ministre de l'économie américaine, Rubin va négocier avec Paulson le plan de sauvetage de Citigroup, moyennant quoi, une fois son travail accompli et sa mission dûment remplie, il pourra partir avec un magnifique parachute doré. Donc, la confusion des élites politiques et financières a atteint un degré tel qu'il y a quand même quelques raisons d'être pessimiste à propos de ce qui va sortir du pipeline. Je veux dire, l'audace des projets qui sont sur la table pour l'instant, quand même, a pas de quoi nous faire tomber de notre siège.
Alors, qui est responsable de tout ça? Parce que au cours de l'été, vous parliez de BNP Paribas. Soudain, on a vu qu'est-ce que ça veut dire. Les traders vont recevoir des bonus, comme si de rien n'était. C'est-à-dire, on s'est beaucoup indigné. On s'est aussi beaucoup intéressé, vous nous en parlerez, des paradis fiscaux. Enfin, les mesures à prendre, si on écoute un peu la doxa, la rumeur, il suffirait de se débarrasser de ces traders ou de réduire ou de maîtriser leur bonus, et puis de maîtriser aussi les paradis fiscaux. Enfin, bref, d'éliminer un certain nombre de dérives. Hein. Voilà, le président de la République, l'an passé, a fait ce fameux discours à Toulon, suivi par tous les commentateurs économiques, vos confrères, et il s'agissait d'effectivement cet argent fou, cette finance folle, enfin, ces dérives, on ne peut plus, quoi. Voilà. Alors, on nous dit, voilà, c'est ça, les dérives. Les dérives, c'est les bonus, c'est les paradis fiscaux, et si on arrivait, peut-être que le G20, là, celui-là, va peut-être nous permettre d'annuler de lutter contre ces dérives, eh bien, ça s'arrangera.
Oui, bah c'est évident. Bon, là c'est ça qui est un peu tragique, hein, dans cette histoire. Parce que lorsqu'on regarde les discours gouvernementaux qui sont tenus depuis 2 ans, ça, je veux dire, ça commence avec le discours de Toulon, enfin, mais dès 2007, Sarkozy nous avait fait le coup. Enfin, ça oscille entre l'insuffisant et le risible. Alors le risible, au moins on rit, c'est-à-dire qu'on pleure pas. Hein. Donc le risible, c'est ces appels à la moralisation du capitalisme. Bon, c'était toujours étonnant, le canard à la tête coupée, mais il continue de courir, c'est invraisemblable. Alors, moi, la moralisation du capitalisme, je ne sais pas quoi dire, c'est tellement bête, ce truc. Hein. C'est tellement bête. On cherche le degré de métaphore adéquate pour exprimer toute cette bêtise. Alors, moi, je ne sais pas. C'est comme la moralisation du capitalisme, c'est comme quelqu'un se promène dans la jungle et croise par inadvertance un tigre qui a visiblement très faim. Et pour le dissuader de le croquer, il ne trouve rien d'autre à faire que lui dire un truc du genre, je sais pas, kiki, pas mordre, sage kiki, pas mordre. Bon, alors, ben, ça ne marchera pas. Et ça ne marchera pas parce que c'est idiot. Bon, voilà, il est dans la nature du tigre de mordre et de bouffer tant qu'il ne rencontre pas une force plus puissante et opposée à la sienne qui l'en interdise. Genre, je suis sur le dos d'un éléphant et j'ai un gros fusil. Eh bien, de la même manière, il est dans la nature de la finance, en univers capitaliste, de rafler tous les profits qu'elle peut, tant qu'elle ne rencontre pas des contraintes dures qui le lui interdisent. Bon, alors, question...
Vous nous expliquerez quelles sont ces contraintes dures.
Ah oui. Non, mais oui. Je vais tout expliquer. Je me mets à table. Question, où sont les contraintes dans le cadre régulateur actuel de la finance? Réponse, nulle part. Question subsidiaire, où seraient, ou bien où seront, les contraintes dans le nouveau modèle régulateur que nous concocte le G20? Réponse, même réponse que précédemment. Ah zut! Alors pourquoi? Eh bien parce que le cadre qu'est en train d'élaborer le G20 a, un pouillème près, ne modifie pas qualitativement le cadre ancien. Et alors, moi, j'aime bien cette métaphore du cadre. Elle est un peu sommaire, mais je la trouve convenablement éclairante. Parce qu'à mon avis, c'est ça qui fait la grande ligne de partage actuellement. Hein ? Il y a ceux qui veulent préserver le cadre et continuer à travailler dans le cadre, c'est-à-dire rafistoler le cadre. Et de l'autre côté, il y a ceux qui veulent sortir du cadre et changer le cadre. Alors ça, là, évidemment, inutile de se demander où se situe le G20 en cette matière. Poser la question, c'est y répondre. Et je dirais même plus, il est inutile de se poser la question de savoir où se situe le G20 unanimement. Et là, j'en viens à ces histoires de paradis fiscaux et de bonus. Parce que le commentariat éditorialiste est en train de nous vendre une fable, mais alors un conte pour enfants, qui est la légende de l'affrontement titanesque entre deux visions du monde, avec, à ma droite, la vision libérale anglo-saxonne, Obama-Gordon Brown, et à ma gauche, la vision régulatrice européenne continentale, le divin Sarkozy, un petit peu aidé par Angela Merkel. Bon. Et le G20 s'annonce comme un combat de géants. Sarkozy est prêt à tout, il claquera la porte, peut-être il renversera sa chaise, je ne sais pas. Je dis que ceci est une fable. Alors pourquoi ? J'en veux, sinon pour preuve, du moins pour indice, cette obstination à pousser sur le devant de la scène et à polariser tout le débat sur des questions dont je dis qu'elles sont périphériques, qu'elles sont opportunément montées en mayonnaise pour mieux nous jouer la comédie de l'affrontement et pour mieux faire passer par en dessous une convergence, alors bien réelle, mais inavouable, sur les vrais enjeux fondamentaux. Alors, quelles sont ces deux questions autour duquel on fait grand bruit alors qu'elles sont secondaires et subalternes? Ce sont les questions des paradis fiscaux et des bonus. Alors là, à ce moment-là, j'imagine assez volontiers qu'il peut y avoir quelques gaspes au bout du fil, parce que les gens qui entendent ça peuvent se dire légitimement « mais enfin, ils débloquent, machin ». Je veux dire, les paradis fiscaux, c'est important tout de même. Je veux dire, il y a des gens comme Denis Robert qui se sont tués la santé sur des trucs pareils. Bon. Et les bonus aussi. Je veux dire, il n'y a pas de quoi être fâché tout rouge avec les bonus, mais si, tout de même un peu. Bon. Alors, quand je dis que c'est des questions périphériques, j'en rajoute un peu pour le plaisir de la provocation, mais aussi pour tordre le bâton dans l'autre sens. Ma vraie position, ma position médiane, ça serait de dire que ce sont des questions d'une incontestable dignité en soi, mais pourvu qu'on les situe dans leur registre adéquat. Ce sont des questions politique. Ce sont des questions qui ont à voir avec des enjeux de justice sociale, d'inégalité, etc. Mais pour ce qui est de comprendre la crise et la réponse qu'il faut apporter à la crise, je dis qu'on fait fausse route. Les paradis fiscaux ne sont pour rien ou presque dans la crise financière. Leur contribution est absolument marginale. Alors oui, bien sûr, ils ont apporté leur petite contribution honnête à la merdouille générale. Je veux dire, d'abord parce que les paradis fiscaux hébergent tous les hedge funds, alors qui s'y entendent comme pas deux pour répandre la vérole. Et puis aussi parce qu'ils ont, c'est là qu'étaient hébergées douillettement toutes ces entités juridiques un peu bizarres qu'on appelle les SPV, les Special Purpose Vehicles, qui étaient les porteurs de tous les actifs qu'on a qualifiés d'actifs toxiques. Mais supposer qu'on ait rayé dès 2003 tous les paradis fiscaux de la surface de la Terre, nous aurions eu tout pareil la crise financière, parce que c'est ailleurs que ça se joue. C'est dans les mécanismes de la finance onshore, celle qui est sous la coupe des gouvernements, des régulateurs, etc. C'est là que ça s'est produit. Les bonus. Alors, les bonus, c'est quand même une autre affaire. Je veux dire, il faut pousser mémé dans les bégonias pour dire qu'ils y sont pour rien du tout dans la crise. Évidemment, on connaît les inconvénients de ces formules. Je veux dire, ça pousse les opérateurs au crime. Ça les incite à prendre des paris qui sont grassement rémunérés lorsqu'ils sont gagnants et qui ne sont pas sanctionnés lorsqu'ils sont perdants. Donc oui, les bonus ont eu un rôle dans la crise. Mais s'imaginer qu'ils ont été seuls en cause et que si on réglait le problème des bonus, on en aurait fini avec les problèmes de la finance, c'est vraiment commettre une grave erreur. Donc c'est pas de ce côté qu'il faut s'orienter en priorité. Et bien sûr, ce qu'on pousse sur le devant de la scène, à grand spectacle et à grand son de trompe, ce sont ces deux questions. Comme toujours, pour ne pas parler du reste.
Au G20, Frédéric Lordon, là, dans ce G20, on voit notre président de la République qui va s'illustrer, comme il sait le faire, avec cette fougue, cette détermination de lutter contre le...
Il va casser une chaise. Il va casser une chaise.
Alors, ce président, il est de droite. Mmh. Est-ce que la gauche ferait mieux en la matière ?
Alors là, il faut... on peut relever les compteurs, au compteur de l'histoire, la gauche a fait pire que la droite en matière de libéralisation financière. C'est-à-dire que c'est le socialisme de gouvernement qui a fait progresser par étapes successives la déréglementation des marchés de capitaux et tout ce qui s'en est suivi. Donc de ce point de vue, je serais partisan là aussi de modérer l'enthousiasme. Et quand je dis modérer l'enthousiasme, évidemment, je ne sais pas quoi dire pour éviter que nous sombrions dans la dépression collective la plus noire. Parce que si on regarde sur l'échiquier politique, disons les partis en situation d'arriver au gouvernement, ceux qui sont à même de tenir un discours véritablement nouveau, puis pas seulement de tenir un discours, je veux dire surtout de joindre le geste à la parole, alors c'est le grand désert. C'est ça le vrai problème, parce que c'est pas le tout d'avoir des idées. Donc moi j'essaye de faire mon boulot dans mon coin, je peine pour avoir des idées, pour en mettre deux l'une au bout de l'autre, etc. Bon, de temps en temps j'y arrive, elles sont imparfaites, elles sont bancales, tout ce qu'on veut. Mais en les supposant vraiment magnifiquement polis, sertis, etc., comment rentrerait-elle dans les faits ? Mais là, je veux dire, ça, c'est poser la question des conditions de possibilité politique de mise en œuvre de ces propositions. Et on voit bien que c'est une autre paire de manches. Bon, et il n'y a pas lieu de s'en étonner, d'ailleurs. Il faut regarder au-delà du cercle des acteurs politiques à proprement parler. Je veux dire, un ordre de domination ne se rend pas spontanément. Voilà. Hein ? Il ne décide pas, comme ça, un beau jour, de s'autodissoudre dans l'alcool. Donc, l'événement qui verrait les dominants se rassembler et s'adresser à la société pour lui tenir ce discours. Voilà. Et ben pendant 3 décennies, on a fait bombance et on a bien profité. Bon, allez, on trouve que c'est assez maintenant. On fait une dernière grosse fête et on vous rend les clés.
Voilà. Puis bon. Maintenant, on va vivre dans la frugalité.
Et voilà. Alors, cet événement-là, je le dis, est très improbable. Bon,
c'est un appel à la révolution. Je sens que ça va mal finir.
J'ai parlé du privilège de profitabilité de la finance, de la vie à millions, etc. Je veux dire, encore une fois, c'est pour dire qu'il y a une forme de vie qui s'est constituée là et qui ne se laissera pas détruire sans résister avec la dernière énergie. C'est un combat frontal entre la société et sa minorité parasite. Et le problème, c'est que tous les mécanismes institutionnels et politiques travaille à la préservation et la perpétuation de cette minorité parasite. Tous les mécanismes de cette chose qu'on appelle par charité ou bien par habitude, la démocratie qui n'est que la démocratie représentative et qui vaudrait mieux en fait appeler l'oligarchie. Et donc, c'est ça qui me rend très pessimiste, si vous voulez, c'est que la transition à froid qui transformerait en profondeur les structures du capitalisme présent, cette transition à froid est un événement dont la probabilité me semble absolument ridicule. Alors, qu'est-ce qui nous reste ? Eh bien, je cherche et je ne vois que 2 trajectoires ou 2 scénarios, si vous voulez. Alors, premier scénario, c'est ce qu'on pourrait appeler le scénario du crapaud. Alors, vous connaissez l'histoire du crapaud. On met un crapaud dans une casserole d'eau froide et puis on met le feu dessous et on monte gentiment la température. Et ce con de crapaud, il sent rien. Jusqu'à l'ébullition. Il ne fait pas un mouvement pour sortir de la casserole. Le crapaud finit par mourir ébouillanté. Et quand on regarde ce qui se passe depuis 3 décennies, c'est le corps social qui joue le rôle du crapaud. Et c'est ce scénario qui a ma... Enfin, je veux dire, en termes de probabilité, hein, qui a ma préférence, malheureusement. Je veux dire, qu'est-ce qui fait tenir la société ? C'est les vraies régulations sociales, c'est quoi ? C'est le Lexomil, c'est TF1 et c'est la flicaille. Je veux dire, pour dire les choses vraiment à l'os.
Brutalement, ouais. Oui.
Alors, le scénario alternatif, qu'est-ce que c'est si on renonce à l'existence de crapaud ? C'est le scénario de la soupape. Bon, alors c'est celle qui saute quand la pression dans la marmite est trop forte. Bon, et alors là, il ne faut pas s'étonner que dans ce scénario-là, il puisse y avoir de la casse. Je veux dire, ça ne serait que le reflet, la conséquence de la faillite généralisée de tous les médiateurs politiques, les médiateurs médiatiques et les médiateurs syndicaux. Et je le dis avec une grande tristesse, parce que des 3 faillites, je veux dire, c'est celle-là qui est la plus rageante. Vous comprenez ? On en revient à la question que vous posiez au tout début. Qu'est-ce qui se passe au début de l'hiver 2009 ? Tout le monde est très très mécontent. Et qu'est-ce qu'on fait pour éponger ce mécontentement ? On marche. Les syndicats, au sens propre et au sens figuré, nous ont fait marcher. Alors oui, on a arpenté par millions entre République et Nation. C'est très bien. J'ai bien peur que, intentionnellement ou pas, ça je ne le sais pas, les syndicats étaient dans cette affaire les complices objectifs de Sarkozy. Je veux dire, il y avait une colère dont le débondement était sur le point de s'opérer et qui a été très habilement contenu et le soufflet après est complètement retombé. Alors, oui, devant la fermeture de toutes les solutions politiques réglées, institutionnelles, démocratiques avec les guillemets, on finit par se dire qu'il ne reste plus que l'issue du gros gros coup de colère. Le gros gros coup de colère populaire. Mais alors... pas content, fâché tout rouge. Et alors, évidemment, ça, j'ose à peine le dire. Et j'essaye de faire la part entre ce que j'appelle de mes voeux et ce qui relève d'un diagnostic simplement analytique. Mais j'ose à peine le dire. Ceci s'appelle un soulèvement. Ça s'appelle un soulèvement.
Alors, quelle serait cette force qui serait capable d'imposer les contraintes indispensables à un assainissement, un véritable assainissement de tout ça?
Alors, il y a deux questions d'abord. Il y a la question des forces pour imposer, mais ça, c'est la question qui vient par après. Puis c'est une question politique. Donc là aussi, je suis pas grand expert pour y répondre. La question préjudicielle est de savoir quoi faire. Hein? Bon, alors là, c'est évidemment un peu compliqué. Je pense, encore une fois, qu'il n'y a pas d'analyse sérieuse de la crise et des réponses à y apporter qui ne partent de ce constat. J'ai parlé de cette enclave de profitabilité aberrante dont la finance de marché a joui pendant deux décennies. Bon, c'est un privilège, alors quasiment au sens nobiliaire du terme, hein, auquel il faut mettre un terme. C'est un privilège qu'il faut fermer. Alors... pour deux raisons. La première, c'est qu'il est injustifiable qu'une activité aussi socialement nuisible que la finance. Alors là, je le dis vite, hein, socialement nuisible ou socialement inutile. Je le dis vite parce que je sais que je rencontre le sens commun des auditeurs de là-bas si j'y suis. Je m'accorde donc cette facilité. Mais en toute rigueur, il faudrait élaborer un peu plus. Hein. Donc le cas échéant, je peux. Hein. Mais pour faire simple et facile, il est injustifiable qu'une activité socialement nuisible à ce degré jouisse une surprofitabilité de ce calibre. C'est la première raison, elle est toute politique. La deuxième raison, qui est un petit peu plus technique, c'est que ces niveaux anormaux de profit ont nécessairement pour corrélat des risques de même intensité. Alors d'abord, les risques sont méconnus, ignorés, puis déniés, mais un jour, il y a le réel fait résurgence, et en général, il le fait méchamment. Et c'est à ce moment-là que la bulle éclate. Je veux dire, c'est dans ce complexe qui lie intimement surprofit et surrisque que prennent systématiquement naissance les bulles spéculatives. Et moi, je tiens que l'objectif stratégique que doit poursuivre une refonte sérieuse des structures de la finance, c'est d'empêcher que toute bulle ne se reforme à nouveau. Et ceci pour une raison extrêmement simple. C'est que lorsqu'une bulle est formée, il est trop tard. Petits enfants, vous pouvez rentrer chez vous. C'est-à-dire, la séquence qui s'ensuit est absolument inarrêtable. C'est-à-dire, la bulle est vouée à éclater, le risque systémique à s'armer, et les pouvoirs publics se retrouvent pris en otage et sommés de venir au secours de la finance. Et c'est la raison pour laquelle, je le redis, sauver la finance, sauver les banques à l'automne 2008, était un impératif vital. Alors, c'est pas agréable à entendre. Hein. C'est la raison pour laquelle j'ajoute aussitôt que sauver les banques sans contrepartie était proprement inconcevable. Et quelle est la...
Et c'est ce qui s'est passé.
Et c'est ce qui s'est passé pour l'instant. Quelle est la seule contrepartie qui soit à la hauteur du dommage que porte la finance? C'est que plus jamais situation pareille ne se reproduise. Bon. Et alors là, visiblement, on n'en prend pas du tout le chemin. Tous les plans de re-régulation qui sont actuellement sur la planche à dessin ont pour projet implicite de limiter les conséquences de la nouvelle gamelle, mais pas d'en éviter la survenue. Alors, il y a une mesure phare qui est liée à ce qu'on appelle les ratios de capital contracycliques. Je ne rentre pas dans le détail, ce n'est pas très utile. Et d'ailleurs, notre excellente ministre Lagarde l'a redit ce matin à votre antenne même. Elle a dit un truc du genre « Ah mais la question, ce n'est pas que les banques prennent des risques, c'est que si elles en prennent, elles aient suffisamment de capital. » Ce qui veut dire en clair, on leur met un petit coussin aux fesses pour qu'elles se fassent moins mal la prochaine fois où elles tombent. Bon, ce n'est évidemment pas la direction qu'il faut prendre. Alors, quelle pourrait être cette direction? Là, nécessairement, c'est un débat technique, donc il est abstrait, il est assommant, etc. Donc je ne rentre pas dans le détail. Je veux dire, là, de ce point de vue, peut-être l'écrit fait mieux, enfin le médium écrit est mieux que le médium parlé. Hein. Donc il y a des textes que les gens qui veulent à y voir. Mais je vais essayer juste de faire simple et d'indiquer des principes généraux. Si l'objectif est de prévenir la survenue de toute nouvelle bulle, et si cet objectif a partie liée avec la réduction et même la fermeture du privilège de profitabilité dont jouit la finance, alors je dis qu'il va falloir faire dans le brutal et le rudimentaire. Le brutal d'abord, et je l'ai indiqué tout à l'heure, parce que pour faire revenir la finance de 40% de taux de rentabilité des capitaux propres à une rémunération normale de l'ordre de 7-8%, il ne va pas falloir y aller avec le dos de la pelle. Je veux dire, c'est un privilège qu'on n'extirpera pas à la pince à épiler. Je veux dire, il va falloir y aller vraiment, il va falloir frapper fort et sévère. Rudimentaire, parce que l'urgence est de désophistiquer la finance. Par sa complexité, la finance est devenue le lieu de toutes les incompréhensions de la part même des professionnels. Les professionnels sont incapables de se débrouiller avec les produits financiers ultra complexes dont ils ont fait l'acquisition et la spéculation. Et c'est le lieu de tous les défauts de maîtrise des risques collectifs. Ma thèse est donc qu'il faut, je le dis de la manière suivante, il faut médiocriser la finance. Médiocriser, étymologiquement, ça veut dire la ramener à ce qui est moyen. Il faut ramener la finance au moyen de la profitabilité. Il faut ramener la finance au moyen de la complexité des produits, c'est-à-dire lui faire faire à nouveau des choses simples, aisément compréhensibles, bien maîtrisables, peu risquées, et par conséquent, évidemment, peu rémunératrices. Et donc, mon mot d'ordre serait, il faut que la banque et la finance redeviennent un métier terne et ennuyeux.
C'est ça.
Comme elle l'a toujours été par le passé, et comme elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Alors, tout ceci suppose de réduire...
On fait rentrer le monstre dans la boîte.
On fait rentrer le génie dans la lampe. Alors, tout ceci suppose de réduire drastiquement la marge de manœuvre et le champ des actions autorisées qu'on laisse à la finance. Alors, est-ce qu'on demeure qualitativement dans le modèle ancien auquel on rajoute deux vis et on serre trois boulons ? Ou bien est-ce qu'on change profondément le modèle ? Je dis qu'il faut passer du modèle de la supervision réactive au modèle de la restriction préemptive. La supervision réactive, c'est on laisse les petits poulets s'ébattre en plein air. Puis alors, de temps en temps, il y en a un qui se taille, alors on va le rattraper. Le problème, en général, c'est qu'ils se barrent tous ensemble dans un sens et qu'ils vont se jeter dans le précipice et qu'on ne les revoit jamais. Bon. La restriction préemptive, c'est qu'on les enferme à double tour. Et éventuellement, on leur met un peu de Lexomil dans le grain pour les tenir bien calmes et pour les désexciter. Alors, très concrètement, ça veut dire des choses comme séparer la banque commerciale de la sphère des marchés et la séparer hermétiquement, fermer un certain nombre de marchés dérivés, limiter l'accès aux marchés de produits dérivés restants, interdire ce qu'on appelle le trading pour compte propre, c'est-à-dire ces activités dans lesquelles les banques ne se contentent pas de passer les ordres de leurs clients, mais jouent avec leurs fonds propres, et en général dans des conditions incroyablement plus scabreuses et plus risquées. Ça veut dire soumettre à validation, ce qui voudra dire le plus clair du temps, à interdiction, la plupart des innovations financières qui sortent des cerveaux géniaux des ingénieurs de la finance, etc. etc. Donc là, je renvoie à tout un tas de mesures techniques qu'on ne peut pas aborder maintenant, mais il y a des choses qui sont tout de même concevables et dont on ne prend absolument pas le chemin, hein.
Frédéric Lordon, là on a compris, là on a la solution, hein. Les auditeurs prennent des notes et donc le monde va changer dans les...
Oh, bah dans le quart d'heure, ça me paraît évident.
Dans la semaine. Mais quand même, ce krach financier, il a eu pour effet une certaine récession économique. On a évoqué la montée du chômage. Il y a un lien entre ce krach financier et l'économie. Et puis il y a un lien extrêmement violent entre cette théologie du marché, cette théologie du profit, et puis la gestion des entreprises.
Oui.
On le voit actuellement avec la crise chez France Télécom, privatisée en grande partie, et puis avec la Poste qui a l'air de dériver elle aussi vers la privatisation. Est-ce qu'on peut évoquer ça ?
Bah oui, on peut, je dirais même qu'on doit. C'est une manière de revenir sur le thème qu'on a abordé tout à l'heure, c'est-à-dire le thème de la crise financière symptôme, la crise financière épiphénomène d'une crise plus profonde, qui est une crise structurelle, crise de la configuration présente du capitalisme en tant qu'elle donne lieu, qu'elle soutient ce que j'appelle, pour faire simple, alors il y a des appellations analytiquement plus rigoureuses hein, et plus précises, mais pour faire simple, un capitalisme de basse pression salariale. Ce capitalisme de basse pression salariale, il est structuré autour de deux grandes contraintes structurelles. La première contrainte, c'est la contrainte actionnariale, la contrainte de dégager, faites aux entreprises de dégager toujours plus de rentabilité à servir l'actionnaire. Et la deuxième contrainte, c'est la contrainte concurrentielle. Bon. On voit bien que la synergie de ces deux contraintes opère un effet de tenaille absolument mortel qui voue le salaire à devenir une variable d'ajustement envoyé dans une dynamique de compression indéfinie. Bon. Alors ça, c'est, je dirais, l'appréciation quantitative des choses. On pourrait prendre cette affaire de contrainte actionnariale, puisque, je veux dire, enfin, c'est exactement de ça dont il va être question lorsqu'on va parler de France Télécom et qu'on va évoquer le destin de la Poste. Plus qualitativement parlant, il faut se demander pourquoi la symbiose de la contrainte actionnariale et de la contrainte concurrentielle est à ce point toxique. Car il faut le dire, je veux dire, c'est le plongement dans un univers ultra-concurrentiel qui exalte, en quelque sorte, qui démultiplie les effets de nuisance de la contrainte actionnariale. Sous l'injonction actionnariale de dégager sans fin de la rentabilité financière, la concurrence a pour effet de placer tous les agents en position d'avoir à défendre des intérêts vitaux. Et ça, de haut en bas de la pyramide hiérarchique. Parce que le paradoxe, d'une certaine manière, c'est que ça commence avec le patron lui-même. N'est-ce pas ? Le patron qui n'est plus du tout le seul maître à bord après Dieu hein, dans l'entreprise. Maintenant, il a sur le dos les actionnaires et les marchés financiers.
Et la concurrence aussi.
Et la concurrence.
C'est deux arguments. Le gars va dire, mais attendez, il y a une telle concurrence qu'on est obligé de se conduire comme ça. Et puis, il y a les actionnaires qui sont derrière nous et on est obligé de se conduire comme ça.
Et alors, ce qui est tragique, c'est que cet argument ne peut pas être balayé du revers de la main, car il est objectivement bien fondé. Qu'il soit instrumenté de la plus cynique et de la plus brutale des manières, n'empêche pas que ces contraintes-là sont bel et bien là. Et alors, pour le patron, c'est assez terrible, parce que s'il ne donne pas satisfaction, il sautera. Et il sautera selon l'enchaînement fatal suivant, sous-performance, baisse du cours de l'action, menace d'OPA, débarquement de toute l'équipe dirigeante. Et même avant l'OPA, si par hasard il y avait un petit putsch de conseil d'administration, on se débarrasserait du patron mal performant dans de meilleurs délais. Or, le patron ne veut qu'une chose, il veut persévérer dans son être patronal. Parce que c'est toute sa vie. Je veux dire, l'ivresse de conduire une grande entreprise mondialisée, le salaire à millions, les stocks options, les retraites chapeaux, c'est son existence même de patron, c'est ce qui fait sa joie d'individu. Alors, je veux dire, il ne se laissera pas déposséder de ça sans rien faire. Et c'est là que je dis que le patron est ce que j'appelle le maillon faible paradoxal. C'est-à-dire, d'un côté, il est le plus vulnérable, le plus sensible à l'injonction actionnariale, puisque c'est lui qui la prend en pleine poire, hein, au tout premier degré. Mais d'un autre côté, il est aussi celui qui conserve le pouvoir dans l'entreprise, et notamment le pouvoir de mettre toute son organisation sous tension pour lui faire atteindre les objectifs au travers duquel passe sa persévérance dans l'être patronal. Et donc, l'injonction indéfinie de productivité, qui sera destinée à être servie à l'actionnaire sous la forme de la rentabilité financière, hein, cette injonction descend en cascade tous les échelons de l'entreprise sans la moindre perte en ligne, et jusque tout en bas, et même au-delà de tout en bas, puisque cette injonction prolonge ses effets du côté de la sous-traitance et du côté des sous-traitants, etc. De ce point de vue, chaque fois que je parle de ça, je ne peux pas m'empêcher de citer ce film qui est vraiment très bien foutu de Gilles Perret, qui s'appelle « Ma mondialisation » et qui montre exactement ça. Et alors, c'est très intéressant le cas des sous-traitants, hein, parce qu'eux, ils ne sont pas exposés directement à la contrainte actionnariale. Ils ne sont pas dans le CAC 40, ils n'ont pas les fonds de pension immédiatement sur le dos, etc. Et pour autant, ils la subissent tout aussi directement, mais par le canal de la concurrence. C'est toujours la même chose. Et donc je dis qu'on a là une structure tout à fait générale, rassemblée dans l'injonction suivante, qui est « tu performes ou tu sautes ». Et on retrouve ça absolument à toutes les échelles. On retrouve ça dans les rapports actionnaire-manager, dans les rapports donneur d'ordre sous-traitant, et évidemment dans les rapports entre supérieurs et subordonnés au sein de l'entreprise. Et ceci à tous les niveaux.
Sachant que les subordonnés sont actionnaires, en l'occurrence, très souvent chez France Télécom.
Oui, mais bien sûr. Mais ça, c'est toute l'arnaque de l'actionnariat salarié qui procède de la recette du pâté d'alouette. C'est-à-dire une alouette d'actionnariat pour un cheval de salariat. Bien sûr, les salariés rattrapent quelques pouillèmes sur leur plus-value en bourse, mais enfin, ils savent quand même de quoi est faite essentiellement leur existence. Elle est faite du revenu salarial que leur procure leur travail, et surtout, elle est faite qualitativement des conditions de vie professionnelle qu'ils trouvent dans leurs emplois. Et c'est précisément ça qui est en question. Puisque cette structure dont je parle, hein, elle procède du mécanisme central de l'implication maximale des individus par mise en danger de leurs intérêts vitaux. Encore une fois, c'est ça vraiment la chose. On pense qu'on a là le magnifique aiguillon de la concurrence. La vérité, c'est que c'est un poison violent. D'abord parce que la plupart du temps, l'excès de concurrence fait faire n'importe quoi aux gens, et que surtout, ça le leur fait faire avec la plus extrême violence. C'est pas difficile, et il faut pas s'en étonner. Lorsque les individus sont le dos au mur, ils feront tout ce qui est en leur pouvoir, éventuellement de la façon la plus désordonnée qui soit, pour en sortir. Et c'est une terrible violence qui déshumanise les gens. Et une violence d'ailleurs qu'ils vivent assez souvent dans l'ambivalence, puisqu'ils en sont à la fois victimes et bourreaux. Cette violence, ils la subissent et ils l'agissent. Bon, alors il n'y a que ceux qui sont en bout de course, en butée hiérarchique. Ce qui ne veut pas forcément dire que les ouvriers, je veux dire un ingénieur de projet par exemple, ou un cadre technico-commercial, qui n'a personne sous ses ordres, lui il est, il est ce que j'appelle en bout de course hiérarchique, et il n'en est pas moins cadre. Bon, les gens qui n'ont personne en dessous d'eux, à qui passer cette violence-là, eh bien ils la prennent tout pour eux. Et puis à la fin, dans certains cas, ils se jettent par la fenêtre ou ils se foutent un couteau dans le ventre. Alors, c'est ça qui est dramatique. Je veux dire, c'est que l'intensité de cette double contrainte absolument toxique, hein, de la rentabilité actionnariale et de la concurrence répand partout dans le tissu économique une épouvantable violence qui s'empare de littéralement tout le monde. Donc il faut redéployer toute cette chaîne qui va de l'extrémité actionnariale jusqu'à l'autre extrémité salariale, et il faut la voir bien sous les yeux, dans une vision synoptique, pour pouvoir ensuite ressaisir, comme par un court-circuit, le lien qui mène de l'actionnaire au salarié suicidé.
Solution ?
Alors là, moi, la solution, j'ai rendu ma copie un certain temps, mais alors je ne m'attendais pas à être accueilli par des acclamations, hein, il valait mieux pas, sinon j'aurais été déçu. Il y a un peu plus de 2 ans, j'ai proposé un truc auquel j'ai donné le nom de slam. Alors, moi, slam, j'aimais bien parce que, d'abord, c'est le bruit d'une porte qu'on claque au nez d'un fâcheux. Alors là, le fâcheux, on le connaît, hein, c'est le capital actionnarial. Alors, c'est compliqué, hein, le capital actionnarial, parce que le drame, c'est que le capital actionnarial se nourrit des épargnes des salariés, ce qui est une espèce de tragédie. C'est l'épargne des salariés, hein, qui s'investit dans les actions, etc. Donc, la perversité ultime de ce système, c'est que les salariés s'asservissent à leurs propres frais. Mais bon, il y aurait à dire là-dessus. Et SLAM, c'était aussi un acronyme qui voulait dire Shareholder Limited Authorized Margin, ce qui, en bon français, veut dire marge actionnariale limite autorisée. Et le but de la manœuvre, c'est de définir, pour le capital actionnarial, un taux de rentabilité maximal, inspiré d'ailleurs de ce que je disais sur ce que peut être et ce que doit être le taux considéré comme normal de rémunération du capital, c'est-à-dire revenir dans l'orbite du taux d'intérêt à une prime de risque près, donc quelques pourcents seulement, et pas les 20% des entreprises du CAC 40. Définir un taux de rentabilité actionnariale maximale au-dessus duquel un prélèvement fiscal écrète et prend tout. Alors, c'est pas une mesure fiscale en soi, c'est pas un truc pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État.
Et c'est une façon de désarmer les marchés financiers.
C'est exactement ça. C'est une façon de cisailler à la racine toutes les incitations du capital actionnarial à pressurer toujours davantage et sans limite les entreprises, puisque le mot d'ordre implicite qui est porté par le SLAM, c'est « si vous continuez de serrer les croûts, peut-être vous ferez dégorger l'entreprise un peu plus, mais on vous prendra tout ». Donc c'est même pas la peine d'y penser. Renoncez simplement. Alors, c'est une mesure qui a... Il y a plein d'objections qui naissent immédiatement contre cette mesure. Vous allez faire partir les capitaux, vous allez faire partir les entreprises, etc. J'ai des objections aux objections. Bon, là aussi, je renvoie à des choses écrites. Hein. Dans le livre que vous avez eu la gentillesse de citer, il y a une annexe, il y a un chapitre sur le SLAM, et il y a une annexe qui est consacrée à la présentation de ces objections aux objections. Bon, voilà. Donc, mais c'est un débat qui est en cours. Je veux dire, j'aimais l'idée, elle est sans doute imparfaite, elle nécessite du travail, qu'on le fasse et qu'on s'y mette. Voilà, c'est tout.
Et concernant la concurrence?
Alors, concernant la concurrence...
Comment on fait pour limiter la concurrence? Là, on en revient au G20, on en revient quoi? À l'OMC? À qui on fait confiance? Où est-ce qu'on fait du protectionnisme? Qu'est-ce qu'on fait?
Alors, moi, je suis...
À l'échelle mondiale, ouais. À l'échelle régionale?
Alors, moi, je ne suis pas un expert en commerce international et je n'ai pris la parole sur ce sujet que pour signaler au moins une chose qui est une espèce de piège de langage, pour ne pas dire de piège logique, qui tourne autour de ce débat sur le protectionnisme, dont on fait quand même le motif de diabolisation numéro un. Je veux dire, mais enfin, très honnêtement, hein, dans le débat public, pire que protectionniste, il y a pédophile, quoi. Je veux dire, enfin, vraiment, immédiatement. Enfin, moi, j'ai le souvenir d'avoir entendu, je sais plus qui, ça devait être Emmanuel Todd, hein, ou. Je ne sais plus si c'était la matinale d'Inter ou de France Culture. Et bon, on lui dit, mais quand même, vous n'êtes pas protectionniste, non? Je veux dire, c'est quand même le comble de l'horreur. Et là, contre, je voudrais faire observé une chose tout à fait élémentaire. C'est que ce débat sur les protectionnismes, qui tourne autour de la notion de concurrence libre et non faussée, celle des traités européens, la concurrence non distordue.
Nous y revoilà.
À ceci d'extraordinaire qu'en se focalisant sur les distorsions proprement commerciales, les distorsions dans les marchés, elle occulte systématiquement toutes les distorsions d'autres natures, comme les distorsions structurelles, socioproductives, monétaires, qui constituent toutes des protections de fait. Je demande, lorsque la livre est dévaluée en quelques semaines de 30% par rapport à l'euro, est-ce que ceci n'est pas une distorsion ? Lorsque le salarié chinois est payé 150 euros par mois, ou lorsque le salarié, prenons au cœur de l'Europe, le salarié, l'élite salariale en Roumanie et chez Dacia est payé 300 à 400 euros par mois, est-ce que ce n'est pas une distorsion ? Lorsque la Pologne refuse, et en même temps on peut la comprendre, de prendre en charge les coûts environnementaux, est-ce que ce n'est pas une distorsion ? Lorsque le Vietnam refuse de prendre en charge les coûts d'un système de santé, est-ce que ce n'est pas une distorsion ? Lorsque vous avez candidat, alors au cœur de l'Europe, l'Estonie, candidat à l'entrée dans l'Europe, la Macédoine, qui font leur pub institutionnelle sur CNN ou sur les chaînes boursières américaines sur le thème « L'époque est à la réduction des coûts, venez chez nous, 0% d'impôt sur les bénéfices réinvestis ». Est-ce que ce n'est pas de la distorsion ? Oui, ce sont des distorsions. Et les distorsions, pour ceux qui sont du bon côté, ce sont des protections. Ma conclusion paradoxale est donc que la concurrence libre et non distordue, au sens où l'entendent les traités européens, c'est ça le protectionnisme. Dans un monde de différences, il y a nécessairement des distorsions. Les économies sont différentes, elles sont structurellement différentes. Elles sont construites autour de formes de vie politique et sociale différentes. Leurs coûts sociaux sont différents. La différence, c'est de la distorsion. Et la distorsion, c'est de fait de la protection. Donc ce débat sur le protectionnisme est une vaste connerie. Puisque à partir du moment où la grande homogénéisation finale du monde n'est pas encore réalisée et où nous sommes dans un monde d'économie différente, nous sommes nécessairement dans un monde de fait protectionniste. Donc ce n'est pas la peine de s'exciter à vouloir éradiquer le protectionnisme et le protectionniste d'ailleurs, comme la peste noire. Il faut assumer, regarder bien en face que nous sommes dans ce monde-là, et la seule chose intelligente qui reste à faire, c'est de négocier des contre-distorsions et des compensations. Ce qui signifie rompre avec l'agenda de l'OMC, qui est un agenda de poursuite et d'approfondissement de la libéralisation de tous les marchés jusqu'à ce qu'il ne reste plus une seule enclave, plus une seule protection, plus rien du tout.
En tout cas, on a passé une heure du bon côté du doigt. Parce que la devise de Frédéric Lordon, je le rappelle, c'est « montrer du doigt, c'est la certitude d'être du bon côté du doigt ». Merci Frédéric Lordon.